Nous allons en ce matin considérer quelque chose de très tranchant. Ce que nous allons voir, mes amis, sera très tranchant parce que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Et parce que je vais devoir manier cette épée en ce matin, j'ai besoin que l'esprit de celui qui l'a rendue tranchante soit avec moi afin que je puisse pouvoir trancher comme il se doit. Je vous invite donc à vous prosterner avec moi pour invoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons en cet instant de nous accorder ton Esprit Saint afin que ta parole, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, puisse trancher dans nos vies, puisse enlever ce qu'il y a de mauvais en nous et que nous puissions également savoir manier ta parole afin de pouvoir trancher, tendre Père, comme tu nous le fais comprendre. Merci Seigneur d'être avec nous. C'est en Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Le texte de base de cette étude se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Et il est dit: éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Lorsque certaines personnes lisent ce texte, ils pensent que il leur faut examiner tout ce que ce monde propose. Voilà certainement pourquoi ces personnes-là, ces croyants, visionnent toutes les émissions télé, afin de savoir laquelle retenir, afin de savoir laquelle est la meilleure. C'est peut-être pour cela aussi que ces croyants écoutent les derniers tubes musicaux, afin de savoir quelle chanson écouter. Mais, mes amis, l'apôtre Paul ne parle pas d'examiner tout ce que ce monde nous propose. En effet, lorsque nous lisons à partir du verset 19 de la première épître aux Thessaloniciens et au chapitre 5, il est dit: n'éteignez point l'esprit. Ne méprisez point les prophéties. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et au verset 22, abstenez-vous de toute apparence de mal. L'apôtre Paul était en train de parler ici de prophétie. Et il exhortait l'église de Thessalonique, laquelle vit le jour grâce à son ministère, à ne pas mépriser les prophéties, mais à les éprouver. Ceux qui souhaitent continuer à passer en revue les émissions télé ainsi que les tubes musicaux des artistes de ce monde, l'apôtre Paul leur dit: abstenez-vous de toute apparence du mal. Mais laissons là le monde et ceux qui sont attachés au monde, pour nous focaliser, mes amis, sur la prophétie. La question que il nous faut tout d'abord nous poser, c'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré aux Thessaloniciens: éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Autrement dit, éprouvez toute prophétie et retenez celles qui sont bonnes. Pourquoi alors a-t-il déclaré cela? Afin de pouvoir répondre à cette question, il nous faut nous rendre dans Actes, dans le livre des Actes, et il nous faut considérer quel fut le commencement de l'Église de Thessalonique. Pour ce faire, rendons-nous dans Actes et ouvrons et rendons-nous plus précisément au chapitre 17, Actes, Actes des Apôtres, le livre des Actes, après Jean et avant Romains. Et rendons-nous au chapitre 17 et considérons le verset premier. Paul et Silas, ayant été par Amphipolis et par Apollonia, vinrent à Thessalonique où était la synagogue des Juifs. Et Paul, selon sa coutume, entra vers eux. Et pendant 3 jours de sabbat, les entretint des Écritures, démontrant et faisant voir qu'il avait fallu que le Christ souffrît et qu'il ressuscita des morts, et disant, « Ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. » Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, avec une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. Mais les Juifs incrédules, émus d'envie, prirent avec eux quelques mauvais sujets pour les places publiques. Et ayant excité un tumulte, ils troublèrent la ville et se portant vers la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont troublé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus chez lui et ils sont tous rebelles aux ordonnances de César en disant qu'il y a un autre roi qu'ils nomment Jésus. Ils émurent donc la populace et les magistrats de la ville qui entendaient ces choses, ainsi que les magistrats de la ville qui entendaient ces choses. Et ayant reçu caution de Jason et des autres, ils les laissèrent aller. Et aussitôt, les frères firent partir de nuit pour Bérée, Paul et Silas, qui étant arrivés, entrèrent dans la synagogue des Juifs. Où est-ce? Au verset 10. À Bérée. Écoutez la suite au verset 11. Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs donc d'entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques de qualité et des hommes en assez grand nombre. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que la parole de Dieu était annoncée à Bérée par Paul, ils y vinrent et émurent le peuple. Et aussitôt, les frères firent partir Paul comme pour aller du côté de la mer. Mais Silas et Timothée demeurèrent là à Bérée. L'apôtre Paul était en Grèce. Et là, mes amis, le texte biblique opère une comparaison. Ici, l'Esprit de Dieu, mes amis, met en avant deux niveaux. Ceux des Thessaloniciens, premièrement, et ceux des Béréens, deuxièmement. Quel était la différence? Quelle fut la différence entre ces deux communautés juives, mes amis? Parce qu'il s'agissait de communautés juives dans lesquelles l'apôtre Paul s'est rendu. Comparons le verset 4 avec le verset 11 et 12. Le verset 4 dit, « Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés. » Donc là, on est dans la synagogue des Juifs. « Et se joignant à Paul et à Silas, et se joignirent, c'est quelques-uns là, se joignirent à Paul et à Silas, avec une grande multitude de Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité. » Donc ici, là, au verset 4, chez les Thessaloniciens, les Juifs sont en petite quantité, parce que quelques-uns d'entre eux crurent. Et maintenant, chez les Bériens, au verset 11 et 12, qu'est-ce qu'il est dit? Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs donc d'entre eux crurent. Et donc ici, là, le plusieurs donc d'entre eux, il s'agit des Juifs. Et le texte continue. Ainsi que des femmes grecques de qualité et des hommes en assez grand nombre. La différence, mes amis, que le texte met en avant est la plus grande quantité de convertis à Béré. Laquelle, cette grande quantité, laquelle était due à leur avidité en matière de vérité, mes amis. Dans la communauté juive, là je me focalise sur la communauté juive, mes amis. Et à ce propos, l'inspiration déclare, dans Conquérant Pacifique, page 205, paragraphe 2, l'esprit des Béréens n'était pas borné par les préjugés. Ils désiraient se rendre compte de la vérité des doctrines que leur présentaient les apôtres. Ils étudiaient la Bible, non par curiosité, mais pour connaître ce qui avait été écrit au sujet du Messie promis. Chaque jour, ils sondaient les récits inspirés. Et tandis qu'ils comparaient entre eux certains passages, les anges se tenaient à leur côté pour éclairer leurs esprits et toucher leur cœur. Mes amis, ceux qui cherchent la vérité la découvrent. Dieu ne les laissera pas dans les ténèbres, tout comme il a fait pour ceux de Thessalonique, les quelques Juifs, mais aussi la grande multitude de Grecs pieux, et tout comme il l'a fait à Béré, où là, le niveau était plus élevé que celui de Thessalonique. Ainsi, le noyau de l'église de Thessalonique était issu d'une communauté juive où les préjugés étaient fort présents. Voilà ce que nous comprenons en fait. Voilà pourquoi le texte opère une comparaison entre Béré et Thessalonique. Donc, bien qu'ayant accepté la vérité de l'Évangile, mes amis, l'apôtre Paul jugea nécessaire d'exhorter les Thessaloniciens à chérir l'esprit ouvert qu'ils eurent à l'égard de la prophétie. Parce que l'apôtre Paul leur a parlé de prophétie. Il a fait référence au texte prophétique qu'il avait à son époque pour montrer que Jésus-Christ était le Messie et pour montrer que les temps avaient été accomplis, mes amis. Voilà pourquoi il aura écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, ce que nous avons lu. Mais est-ce là le seul enseignement que 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 21 contient, mes amis? Est-ce juste le fait de ne pas avoir de préjugés et d'examiner, et est-ce que c'est le seul enseignement que ce texte-là contient, mes amis? Non, ce n'est pas le seul enseignement que le texte contient. Avant de nous pencher sur le second enseignement qui est véhiculé par ces versets, je tiens à vous présenter comme une compréhension erronée du premier empêche les croyants d'arriver au second, mes amis. Comment une compréhension erronée du premier enseignement empêche des croyants d'arriver au second enseignement, mes amis. En effet, lorsqu'ils lisent ce texte, beaucoup de croyants pensent qu'il leur faut éprouver, jusque-là ça va, mais continuer à éprouver ce qui a déjà été trouvé faux. Pour comprendre ce que je viens de dire, mes amis, je vous invite à vous repencher avec moi sur notre texte de base. Retournons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le mot éprouver, qui est dans ce texte, est traduit du terme grec dokimazo, lequel signifie tester. Et par implication, considérer quelque chose avant de l'approuver ou le désapprouver. Mais aussi reconnaître, discerner, examiner, éprouver. Telles sont là les significations que peut avoir le terme grec dokimazo qui est traduit ici par éprouver. Ainsi, l'apôtre Paul invita les croyants de Thessalonique à tester les prophéties qu'on leur présentait et à retenir celles qui réussiraient les tests. Autrement dit, celles qui ne réussiraient pas les tests devaient être rejetées. Mais était-ce seulement les fausses prophéties qui devaient être rejetées? Juste la fausse prophétie. Était-ce seulement cela qui devait être rejeté? Rendons-nous dans 1 Jean, chapitre 4, la première épître de Jean, chapitre 4, pour considérer un autre texte où se trouve le terme grec dokimazo. 1 Jean, chapitre 4, et je vous invite à considérer avec moi le verset premier. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais dokimazo les esprits, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le processus de test, mes amis, est une chose importante. Le processus de test, mes amis, est une chose ciblée. En effet, non seulement il doit permettre de faire le tri entre les vraies et les fausses prophéties, mais il doit également permettre de faire le tri entre les vrais et les faux prophètes, entre les vrais et les faux docteurs, entre les vrais et les faux enseignants, mes amis. Et qui dit tri, dit, vous pensiez que c'est moi qui vais trancher la suite? Rendons-nous dans Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 14, et laissons la parole trancher, mes amis. Rendons-nous. Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 14. Et voyons voir comment la parole de Dieu tranche. Éphésiens chapitre 5, versets 10 à 14. Dokimazo, ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Verset 10. Et le verset 11 dit, il continue en disant, et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est même honteux de dire ce que ces gens font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Car tout ce qui manifeste est la lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Dieu invite son peuple à tester les enseignements qui lui sont proposés. Et une fois que l'enseignement est testé, celui-ci est soit trouvé bon, soit trouvé mauvais. Et si le résultat du test est positif, eh bien, l'enseignement, mes amis, doit être cat et co, c'est-à-dire retenu, ce qu'il, le terme qu'il y a dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Retenez. Cat et co. Retenez. Si le résultat du test est positif, on retient l'enseignement. Oui, mes amis, l'enseignement doit être gardé. Il doit être maintenu. Et celui qui l'a introduit également. Mais si le résultat du test est négatif, il doit par conséquent être rejeté, tout comme celui qui l'a introduit. Je vous avais dit que cela allait être tranchant. Cependant, je désire clarifier mon propos ici, afin que ce que j'ai dit et ce que je vais dire ne puisse pas être la source de pratiques fanatiques. Il ne s'agit pas, mes amis, de mettre à la porte un prédicateur dès qu'il commet la moindre erreur. Non, mes amis, il ne s'agit pas de cela. Mais il s'agit de ne pas soutenir un prédicateur à qui l'on a déjà dit qu'il se trompe et qui néanmoins persiste dans son enseignement. Voilà le contexte. Et mes amis, cela est totalement compatible avec le fait de ne pas avoir de préjugés quant à la prophétie. Oui, cela est compatible. En effet, c'est parce que l'on n'a pas de préjugés que l'on sera rendu à même de tester et surtout d'accepter le résultat du test. Et là, mes amis, là, je m'apprête à dire quelque chose de très audacieux, de très osé, de très téméraire, mes amis. Beaucoup de croyants tombent dans l'apostasie et y entraînent d'autres avec eux parce qu'ils n'acceptent pas les résultats des tests qu'ils ont eux-mêmes réalisé. Autrement dit, on a testé un enseignement, on l'a trouvé faux, mais on n'accepte pas le résultat du test. Parce qu'on sait que derrière, celui qui l'a amené devra être considéré comme un faux. Et ça, on ne le veut pas. Donc, je veux ici parler de ceux qui testent les enseignements qu'on leur présente, qui voient que ceux-ci sont erronés, mais qui continuent néanmoins à encourager celui qui leur prêche. Notamment en vendant leurs livres, par exemple. Ou en les invitant à prêcher. Ou en continuant à travailler avec eux, à œuvrer avec eux. Bien souvent, mes amis, ce type de croyant, eh bien, il se croit plus sage que la sagesse qui a inspiré les textes que nous avons lus. Et c'est la raison pour laquelle la sagesse, c'est-à-dire Jésus-Christ, a de nouveau mis en garde son Église à travers son témoignage, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. Mais si vous ne croyez pas en l'esprit de prophétie, mes amis, si vous ne croyez pas que le Seigneur inspira le ministère prophétique d'Ellen G. White, alors ce qui va suivre ne sera d'aucune utilité pour vous. Vous pouvez vous arrêter là avec moi. Mais mes amis, si vous croyez que son ministère fut inspiré par Dieu, je vous en conjure, mes amis, je vous en supplie. Considérez attentivement les éléments qui vont suivre. Je lirai dans Early Writings, pages 123 à 125, qui en français, dans la version originale, ses premiers écrits, pages 123 à 124. Et le titre du chapitre est « Les faux bergers ». Mais je lirai une version révisée, car il y a des éléments croustillants qui ont été omis dans la version française originale. Donc, je vous invite à comparer si vous le pouvez, ou à le faire plus tard. Mais en tout cas, moi, je lirai la version corrigée, où il y a tous les éléments de l'original. Il n'y a pas d'omission, il n'y a pas de... Voilà, tout est là. Alors, lisons ce que la messagère a écrit. Il m'a été montré que les faux bergers étaient ivres. Mais non de vin. Ils titubaient. Mais non après avoir bu des liqueurs fortes. La vérité de Dieu est pour eux chose scellée. Ils ne peuvent en faire la lecture. Quand on leur demande ce qu'est le sabbat du septième jour, s'il s'agit du véritable sabbat de la Bible, ils n'ont que des fables à raconter. Je vis que ces prophètes étaient semblables aux renards du désert. Ils ne sont pas montés sur les brèches et n'ont point entouré d'un rempart la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Quand les esprits s'agitent et qu'ils demandent à ces faux bergers où est la vérité, ceux-ci emploie la manière la plus facile et la plus efficace pour mettre leur dessein à exécution et tranquilliser les esprits qui s'interrogent, et ce même s'il leur faut changer leur position. La lumière a lui sur un certain nombre de ces bergers, mais ils n'ont pas voulu la recevoir et ont modifié leur position de nombreuses fois pour éluder la vérité et ne pas arriver aux conclusions auxquelles ils seraient arrivés s'ils avaient maintenu leur ancienne position. La puissance de la vérité sape leur fondement.
Mais plutôt que de l'abandonner, ils fabriquent une autre plateforme dont ils ne sont pas satisfaits eux-mêmes. J'ai vu que certains nombres de ces bergers avaient renié les enseignements du Seigneur donnés dans le passé. Ils ont renié et rejeté les glorieuses vérités qu'ils avaient autrefois défendues avec ardeur. Ils sont tombés dans le mesmérisme et toutes sortes de séductions. J'ai vu qu'ils étaient ivres d'erreur et conduisaient le troupeau à la mort. Plusieurs de ces adversaires de la vérité de Dieu trament le mal sur leur couche pendant la nuit. Et pendant le jour, ils mettent leur projet à exécution. C'est-à-dire qu'ils jettent la vérité par terre pour la remplacer par quelque chose de nouveau en vue d'intéresser les gens et de détourner leurs esprits de la précieuse vérité, celle qui est de la plus grande importance. J'ai vu que les prêtres qui conduisent leur troupeau à la mort seront bientôt arrêtés dans leur effrayante carrière. Les fléaux de Dieu vont être versés sur la terre, mais il ne leur suffira pas. Mais il ne suffira pas du moins que ces faux bergers soient tourmentés par un ou deux de ces fléaux. À ce moment-là, la main de Dieu s'étendra encore, mue par sa colère et sa justice, et il ne la ramènera pas à lui avant que ses intentions aient été pleinement exécutées et que les prêtres mercenaires s'étant jeté aux pieds des saints, est reconnu que le Seigneur a aimé ces derniers parce qu'ils ont été fidèles à la vérité et ont observé les commandements de Dieu jusqu'à ce que tous les injustes aient été détruits sur la terre. Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une petite vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Les choses qui sont scellées pour eux, le Seigneur les a révélées à ceux qui verront et qui sont prêts à comprendre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il la fera comprendre à ses élus et bien-aimés sans qu'ils aient besoin que leur esprit soit éclairé en écoutant ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés de ceux qui ingurgitent chaque jour de nouvelles erreurs. Je vis que ni jeunes ni vieux ne devraient assister à leur réunion, car ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils enseignent l'erreur tel un venin mortel pour l'âme et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés, car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. C'est alors que la lumière qui nous entoure devient contaminée par les ténèbres. J'ai vu que nous n'avions pas de temps à perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne devraient pas être distraits de la sorte, mais ils devraient être occupés par la vérité présente et rechercher la sagesse afin que nous puissions obtenir une connaissance plus profonde de notre position et que, avec douceur, nous soyons capables de donner raison de notre espérance à partir de l'Écriture. Aussi longtemps que de fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent un esprit, celui-ci n'arrivera pas à demeurer sur la vérité qui doit former et préparer la maison d'Israël à subsister au jour du Seigneur. Mes amis, il est évident que ce texte s'applique aux premières heures du message des trois anges. C'est une évidence. Mais combien d'entre nous comprennent qu'il s'applique tout particulièrement à notre époque? Combien d'entre nous comprennent que l'histoire adventiste est en train de se répéter? Là encore, je vais devoir être très audacieux. Là encore, je vais devoir être téméraire. Là encore, je vais devoir être osé, mes amis. Mais c'est une minorité, mes amis, qui comprend cela. Une minorité. Parmi nous, je précise. Nous vivons, mes amis, à une époque de réforme au sein même de l'adventisme. Et plusieurs groupes se sont formés. Et chacun d'entre eux a une partie de vérité. Cependant, comme pour nos pionniers, Dieu révéla toutes ses vérités au groupe qui se prépare pour son jour. Et en plus d'avoir toutes les vérités de Dieu, ce groupe a des vérités que les autres groupes ne connaissent ni ne comprennent. Quel est ce groupe, mes amis? Certainement pas ceux qui disent prêcher le message de 1888. Certainement pas ceux qui disent être en accord avec les prophéties adventistes. Certainement pas ceux qui disent que le message du quatrième ange arriva en 1931. Mes amis, ces groupes ne peuvent pas comprendre l'œuvre de la foi de Jésus, ni l'enseignement du sanctuaire, et encore moins les prophéties. J'ose le dire, mes amis, oui, témérairement je le dis. Et pourquoi dis-je cela? Car contrairement à nos pionniers, les membres de ces groupes, mes amis, adorent une idole. Quel est ce groupe, mes amis? Quel est ce groupe à qui Dieu révèle toutes ses vérités et continuera à le faire, mes amis? C'est une question importante et il nous faut la réponse. Rappelez-vous de ce que Mme White a dit dans le passage, dans le chapitre que nous avons lu. Quelle était l'une des caractéristiques de ce groupe? Vous ne vous rappelez pas? Mes amis, ce groupe est celui qui observe tous les commandements de Dieu, à commencer par le premier commandement. Seul ce groupe peut avoir une compréhension claire du message de 1888. Seul ce groupe peut avoir une compréhension claire du message du sanctuaire. Seul ce groupe peut avoir une compréhension claire des prophéties de la Bible. C'est pour cela, mes amis, que, à nouveau, Dieu informe les membres de ce groupe qu'il leur communiquera sa lumière sans qu'ils aient besoin d'aller voir ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur. En effet, ceux qui croient, ceux qui disent avoir le dernier message de miséricorde pour ce monde, ne doivent pas encourager ceux qui enseignent des doctrines erronées, et ce, en assistant à leur réunion. Et ce, en lisant des livres où ils ont placé leur erreur. Et ce, en soutenant des ministères qui, justement, font avancer cette erreur. Dieu veut que nous restions, mes amis, dans la liberté qu'il nous a acquise. Mais, voyez-vous, si nous décidons d'agir autrement, si nous décidons de permettre aux ivrognes de nous enseigner, notre lumière va devenir contaminée. Elle sera, au fur et à mesure que nous désobéirons, contaminée par les ténèbres. Car les anges de Dieu, mes amis, ne peuvent pas protéger ceux qui désobéissent. Non, mes amis. Nos esprits doivent être focalisés sur la vérité présente. Il nous faut obtenir une connaissance profonde de la position que doit occuper l'Église du reste, mes amis. Et mes amis, je ne pense pas que ceux qui adorent Marie nous permettront d'y arriver. Je ne pense pas que ceux qui observent un faux jour de repos nous permettront d'y arriver. Je ne pense pas que la doxologie nous permettra d'y arriver. Je ne pense pas que l'adoration de la Trinité nous permettra d'y arriver. Je ne pense pas que le message de la justification par la foi mélangé à la Trinité nous permettra d'y arriver. Je ne pense pas non plus que le BEM nous permettra d'y arriver, mes amis. Je ne pense pas que la compréhension de l'expiation en une seule phase nous permettra d'y arriver. Je ne pense pas que les sabbats lunaires nous permettront d'y arriver, mes amis. Et surtout, je ne pense pas que les nouvelles lunes et les jours de fête nous permettront d'y arriver, mes amis. Non, je ne pense pas. Les faux bergers qui amènent ces doctrines renient les enseignements que le Seigneur nous a donnés dans le passé. Ces enseignements qu'il a donnés pour nous servir de plateforme. Voilà ce que ces faux bergers qui apportent ces messages renversent. Et en remplaçant la vérité par quelque chose de nouveau, en vue d'intéresser les gens et de détourner leurs esprits de la précieuse vérité, ces faux bergers, mes amis, conduisent le troupeau à la mort. Je ne pense pas être plus intelligent, mes amis, que l'apôtre Paul, ainsi que l'esprit de prophétie qui a été manifesté à travers le ministère prophétique d'N.G. White. Je souhaite me préserver, mes amis, et également préserver ceux que je sers dans le Seigneur. Et pour cela, Dieu me demande d'éprouver. Pour cela, Dieu me demande de tester tout enseignement. Ce qui sous-entend de tester également ceux qui les apportent. Une fois que j'ai testé l'enseignement, celui qui l'apporte est de fait testé également. Et une fois que j'ai fait ça, Dieu me demande de retenir uniquement ceux qui sont bons Voilà ce que Dieu me demande, mes amis, pour me préserver. Pour préserver la foi de Jésus qu'il me confie et qu'il veut voir pleinement développée en moi. Voilà ce qu'il me demande de faire, mes amis. Dans mon service, dans mon ministère. Pour que je puisse également préserver ce que je sers dans le Seigneur. Mais je sais qu'après avoir écouté ce message, certains diront qu'une telle compréhension est orgueilleuse. Et que certains diront que je divise pour mieux régner. Mais je vais devoir dire à ces personnes deux choses. Que ce que vous appelez orgueil, Dieu l'appelle obéissance. Première chose. Et deuxième chose, Dieu, il dissipe, il divise les ténèbres de manière à ce que la vérité puisse régner. Rectification. Voilà, je corrige. Je ne donne pas ce message pour me faire d'amis, mes amis. Non. Ce n'est pas pour me faire des amis que j'ai accepté de donner ce message en ce matin, mes amis. Mais je donne ce message, je porte ce message afin de préparer le peuple des saints. Afin de préparer ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus. Et je sais que ce message a dérangé, parce que ça fait 2 ans que je le donne, dérange et dérangera les bergers hypocrites qui disent par leurs enseignements et leurs actions, sortons du milieu d'elles. Est-ce là le message de Dieu, mes amis? Est-ce là le message? Est-ce là le grand cri du quatrième ange? Est-ce là le message de Dieu, mes amis? Non, mes amis. Ainsi, ceux qui refusent de se séparer des agents de confusion ne seront jamais capables de porter le message disant « Sortez du milieu d'elle ». Mais ils continueront à dire « Sortons du milieu d'elle ». Non, mes amis, l'ange ne dit pas « Sortons », il dit « Sortez ». Cela implique que ceux qui portent ce message doivent être dehors et appeler les gens à sortir. Si certains pasteurs désirent égorger et laisser d'autres égorger le troupeau du Seigneur, du fait qu'ils permettent à de faux enseignements de trouver leur place dans le cœur des âmes que Christ a rachetées par son sang, je tiens à leur rappeler que le Dieu du ciel est un Dieu d'amour et de justice. Et que dans sa justice, mes amis, sa colère sera sans mélange. Sa colère sera sans mélange pour les faux bergers. Bien qu'il les a aimés, qu'il les aime et qu'il les aimera d'un amour éternel, sa colère sera sans mélange, mes amis. Je vous invite à considérer Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Et nous le connaissons normalement, ce texte. Ésaïe, chapitre 8, verset 20. Et je vous le lirai comme il est marqué dans la King James Version. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y a point de lumière en eux. Mes amis, suivons la Bible et suivons l'esprit de prophétie. Il serait dommage de nous trouver, que nous soyons trouvés en désaccord avec ce que le Seigneur veut que nous soyons. Et voyez-vous, ce message, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, mes amis. Je l'ai vécu. Et je vais vous dire, je vais partager avec vous, avant de terminer, un témoignage. Lorsque j'ai donné, et que j'ai commencé à donner, et que j'ai donné tout simplement, j'ai prêché sur la foi de Jésus, mes amis. Message qui est l'autre partie du message du troisième ange. Message que pour la foi de Jésus pour laquelle nous devons prier, nous devons la vivre, l'appliquer dans nos foyers, et nous devons la prêcher dans les camps meetings. Nous devons présenter ça aux gens, mes amis, tout comme les commandements de Dieu. Lorsque j'ai donné ce message, mes amis, et que je me suis rendu compte que notre peuple en France ne savait même pas ce que ça signifiait. En tout cas, la très grande majorité ne savait même pas ce que ça signifiait, mes amis. Et c'est parce que notre peuple, en grande partie, sort du mouvement adventiste officiel. Lorsque j'ai considéré cela, mes amis, et que de l'autre côté, j'ai considéré qu'il y a des gens qui arrivent avec des fables, nouvelle lune, jour de fête, et je ne sais, tout ce que j'ai cité comme hérésie tout à l'heure, et que je vois que des gens tombent là-dedans, mes amis. Je puis vous dire, mes amis, que j'ai eu une compréhension très vive, très claire du chapitre que nous avons lu dans Early Writings, premiers écrits. The False Shepherds, les faux bergers. Je me suis dit, mais on ne connaît même pas la foi de Jésus. Le peuple ne sait même pas ce que c'est. Et vous, vous arrivez avec vos fables. Et vous dites aux gens qu'il nous faut faire ci. Vous dites aux gens qu'on peut le faire. Vous dites aux gens que ça nous apportera une bénédiction si on le fait. Alors que le peuple ne connaît même pas l'autre partie du message du troisième ange. Mes amis, lorsque ce que je viens de vous dire, lorsque c'est passé par ma tête, mes amis, je pense que vous pouvez comprendre à présent pourquoi je ne me suis pas tué, mes amis. Je pense que vous pouvez à présent comprendre pourquoi, mes amis, je ne suis pas resté silencieux. Et maintenant que j'ai partagé ça avec vous, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi certains sont de faux bergers. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi certains emmènent le troupeau à la mort. Quand j'ai élevé ma voix, mes amis, j'ai reçu plein d'attaques personnelles, mes amis. Mais personne n'a su combattre le message que je portais. Quand je dénonçais les hérésies, mes amis, personne n'a su combattre, personne n'a su démonter ce que je disais. Et pourquoi, mes amis? Est-ce que j'avais une vertu en moi? Est-ce que j'ai une vertu en moi? Non, mes amis. C'est parce que je prenais la parole et je prenais l'esprit de prophétie avec. Et je disais aux gens, voilà ce qu'il est écrit. Arrête tes fables, mon ami. Arrête tes fables. Et voilà pourquoi on s'est attaqué à ma personne. Je n'ai pas à défendre ma personne, mes amis. J'ai à défendre la vérité de Dieu, mes amis. Mais vous aussi, vous avez à le faire, mes amis. Vous avez à défendre la vérité. Vous devez examiner l'enseignement qui est donné et voir s'il est bon. S'il n'est pas bon. Et que vous vous rendez compte que celui qui l'apporte est profondément dans l'erreur. Et bien souvent, il est dans l'erreur sur ce point, mais sur d'autres points aussi. C'est que mes amis, une fois que vous lui avez expliqué les choses et qu'il ne veut pas comprendre, mes amis, il n'y a qu'une seule chose à faire, mes amis. Sonner de la trompette. Sonner de la trompette, oui. Normalement, c'est la tâche des sentinelles, vous me direz, oui. Mais mes amis, quand j'ai sonné la trompette, toutes les sentinelles dormaient. Il arrive parfois malheureusement que les sentinelles ne fassent pas leur travail. Et que Dieu appelle un jeune homme ou une jeune femme qui sort de nulle part à occuper le poste de sentinelle. Je ne vais pas donner de nom, mes amis. Je pense que ceux qui ont déjà une certaine expérience, ceux qui ont déjà un certain recul, de par les doctrines et les profils que j'ai présentés tout à l'heure, vous savez de qui il s'agit. Personnellement, je suis convaincu que ce que le Seigneur nous a montré, c'est la bonne méthode, mes amis. Et malheureusement, certains ne seront pas d'accord. Parce qu'ils vont dire, oui, mais comment veux-tu gagner l'autre si tu le rejettes? Mais moi, je vais leur dire, oui, mais comment veux-tu te préserver et préserver ta famille ainsi que le troupeau du Seigneur si tu les laisses entrer et prêcher? Le Seigneur ne nous demande pas de faire de l'œcuménisme, mes amis. À un moment, il faut trancher, parce que la parole de Dieu est tranchante. Mais ce n'est pas nous qui tranchons, mes amis. Il faut accepter la tranche que fait la parole de Dieu. C'est tout. Il faut juste l'accepter, mes amis. Ce n'est pas à nous de trancher. La parole de Dieu tranche, mes amis. On l'ouvre, on étudie. Un moment vient, le couteau y passe et c'est tranché. Mais après, il nous faut accepter cela, mes amis. Mais bien souvent, comme je l'ai dit, on n'accepte pas le tranchant, mes amis. Et bien évidemment que je veux gagner les gens. Bien évidemment que ce n'est pas un plaisir. Et j'espère que c'est la même chose pour vous. Que de voir qu'il y en a qui ont adopté l'erreur et qui la promotionnent. Mais mes amis, je sais une chose. Ce n'est certainement pas en les laissant prêcher et en leur disant « Amen » que je vais les amener dans la vérité. Bien au contraire, là je vais les conforter et les encourager dans leur erreur, mes amis. Les œuvres des ténèbres, je ne dois, vous ne devez avoir aucune part avec. Pour ce qui est de gagner cette personne, le Seigneur s'en chargera. Certainement, il vous utilisera, mes amis. Mais ce n'est certainement pas en l'encourageant. Ce n'est certainement pas en l'invitant à prêcher chez vous. Ce n'est pas comme ça que vous allez aider cette personne, mes amis. Aucun nom, mes amis. Et si vous pensez que oui, alors mon téléphone vous est ouvert. Et appelez-moi et nous ferons une étude et j'attendrai que vous me démontrez le contraire. Et si vous arrivez à me démontrer le contraire, eh bien, tout ce que je vous ai prêché en ce matin, je le rejetterai, mes amis. Sincèrement. Mais pour l'instant, mes amis, je ne pense pas que la volonté de Dieu soit que pour gagner un frère qui prêche l'erreur et qui est mort d'écus dans son erreur, mes amis, alors qu'on lui a montré des évidences. Attention, on lui a montré, on a discuté, on lui a dit les choses et qu'il continue. Je ne pense pas que l'encourager d'une quelconque manière l'aidera à avancer, mes amis. Voyez-vous, Jésus-Christ a donné sa vie. Il a versé son sang, mes amis, pour nous racheter. Et Ellen White, dans le texte, a dit que la vérité, la précieuse vérité, qui est de la plus haute importance, Jésus-Christ est la vérité, mes amis. Jésus-Christ a sacrifié sa vie, mais il n'a pas sacrifié la vérité, mes amis. Il n'a jamais sacrifié un seul principe de vérité. Car la vérité, a-t-il dit, il a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comment voulons-nous que le sacrifice du Christ soit efficace pour nous, si nous permettons à l'erreur de modeler notre esprit? Je ne vois pas comment nous atteindre la sanctification avec des erreurs, mes amis. Je suis désolé. Je ne vois pas où est-ce qu'il est marqué dans la Bible que le Seigneur peut nous transformer avec de l'erreur, mes amis. Non, mes amis. Je suis désolé, encore une fois, si vous avez des textes pour moi, mon téléphone est ouvert, mais actuellement, je ne vois pas. Je ne vois pas où est-ce qu'on peut dire ça, mes amis. La vie du Fils de Dieu a été sacrifiée pour nous, mes amis. Et il serait dommage que nous-mêmes, nous nous perdions. Et que, en nous perdant, nous perdions également d'autres personnes. Car lorsque nous nous perdons, mes amis, nous perdons d'autres personnes avec nous. Notre conjoint, nos enfants, des amis. On ne se perd pas tout seul, mes amis. Ou du moins, on a une influence négative lorsqu'on se perd. Et mes amis, il serait dommage que, pour moi, il serait dommage pour ceux sur qui j'ai une influence, il serait dommage que, voyez-vous, qu'il y ait une perte. Je pense que Jésus serait terriblement triste, mes amis. Terriblement triste. Et qu'au jour du jugement, il me dira, mon troupeau, mon petit troupeau, qu'en as-tu fait? Il me le dira à moi, mais il vous le dira à vous, mes amis. Car Dieu nous a confié des âmes, tout un chacun. Mon troupeau, mon petit troupeau, qu'en as-tu fait? Je ne sais pas ce que je répondrai à Jésus s'il me pose cette question-là un jour, mes amis. Je ne sais pas ce que je lui répondrai. Je ne pourrais pas lui répondre, en fait. Et c'est parce que je ne pourrais pas lui répondre, mes amis, que je veux tout faire pour ne pas avoir à entendre cette question-là de sa part. J'espère qu'il sera de même pour vous, mes amis. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, point de roi pour lui. Si nous ne parlons pas ainsi, c'est qu'il n'y a point de lumière en nous. Faisons en sorte que le sacrifice de Jésus n'ait pas été en vain pour nous, mes amis. Faisons en sorte de ne pas sacrifier la vérité. Et obéissons à l'enseignement qui nous dit de ne pas éteindre l'esprit, d'éprouver toutes choses et de retenir ce qui est bon, mais aussi de nous abstenir de toute apparence de mal. Amen. Je vous invite à prier pour terminer.
Notre Dieu, notre Père, merci. Merci car tu as communiqué à l'homme le plan du salut. Tu as communiqué à l'homme ta vérité. Tu nous as donné la vérité en Jésus. Et Père Céleste, le plan du salut est clair. Il n'y a pas de partie où l'homme doit écrire ce plan du salut. Tu nous l'as communiqué et il est intégral, il est parfait. Seigneur, je te prie pour que nous puissions le suivre. Marcher dans ce que tu nous commandes par ta loi. Marcher dans ce que tu nous commandes dans la foi de Jésus, dans l'enseignement du Nouveau Testament. Et que nous puissions t'obéir, que nous puissions nous préserver du mal et préserver également ceux qui nous suivent, les autres personnes à côté de nous, autour de nous, nos semblables, notre prochain. Père Céleste, que nous puissions éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon et avoir une saine compréhension de ce que cela signifie afin que nous puissions être prêts pour ton jour, ce jour terrible où on nous pose la question, mais qui peut subsister? Père Céleste, que nous puissions éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon, et ainsi nous pourrons subsister. Merci pour tout. Nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen.